C'est la loi, c'est la règle, l'usage, selon Grévis, depuis l'école, depuis un siècle, il régente le genre. Écoutez, l'adjectif qui qualifie plusieurs noms de genres différents s'accorde automatiquement au masculin. Ainsi, les hommes et les femmes sont « beaux », selon le bon usage. L'adjectif se met donc au genre indifférencié, c'est-à-dire au masculin. Sacré Maurice! Je cite Grévis car son bon usage domine l'enseignement du français depuis un siècle, mais il n'est pas le seul ni le premier à considérer que le masculin doit l'emporter sur le féminin. Mais ce ne fut pas toujours le cas, comme nous le raconte l'historienne Eliane Viennot dans un court essai qui se présente comme une petite histoire des résistances de la langue française. Bonjour Eliane Viennot.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de littérature de la Renaissance et professeuse émérite à l'université Jean Monnet Saint-Étienne. Et vous avez cherché à savoir, avec ce livre, quand les poils ont commencé à pousser au menton des femmes. Ça, c'est votre expression, elle m'a fait sourire, parce que finalement, ça ne l'a pas toujours été le cas que le masculin l'emporte.
Non, c'était assez courant, disons, quand il y a plusieurs noms à accorder avec un adjectif ou un participe, qu'on mette ça au masculin, parce qu'on a toujours vécu dans des sociétés sexistes. Mais depuis le latin, le grec, on sait faire autrement quand on estime que, par exemple, l'un des noms est plus important que les autres, ou bien quand on n'a pas envie de réfléchir, on met au nom... Ça s'est fait très très longtemps, ce qu'on appelle l'accord de proximité, c'est-à-dire qu'on met l'adjectif au genre et au nombre du dernier mot de l'énumération qui précède. Donc ça, c'est quelque chose qui est très courant, qui était courant en latin, qui s'est transmis à toutes les langues romanes et qu'on a pratiqué, pas systématiquement, mais qu'on a beaucoup pratiqué dans la langue et en fait qu'on a pratiqué, on repère aujourd'hui des exemples jusqu'à la fin du 19e siècle.
Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que Grévis dise « le masculin l'emporte sur le féminin » dans tout les cas. Il y a eu un travail de masculinisation de la langue ?
Oui, maintenant on repère qu'il y a eu un travail délibéré. D'abord, sans doute, à la fin du Moyen-Âge, quelque chose d'un peu non pensé, on va dire, parce que tout simplement, les lettrés n'étaient que des hommes. Les universitaires ne sont que des hommes depuis la création des universités. Mais ensuite, on a, à partir du XVIIe siècle, on observe des injonctions, des condamnations, un travail délibéré de certains grammairiens pour lutter contre les usages qui seraient un peu trop égalitaires à leur goût.
Dans votre essai, non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. Vous voulez donc déconstruire ce travail de masculinisation de la langue pour démasculiniser.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'intérêt de cette étude, c'était de montrer que aujourd'hui ou depuis 40 ans, disons, quand les femmes demandent à être appelées la ministre, ou moi, quand je demande à être appelée professeuse, c'est pas, on n'invente pas des mots, on n'invente pas des usages, on retrouve en fait des usages. Voltaire, par exemple, disait professeuse, il ne connaissait pas autre chose. Donc, on retrouve des usages qui ont eu cours, qui sont tout à fait logique dans la morphologie du français, mais qui ont été condamnés.
Alors, vous citez Voltaire, il faut citer aussi des noms de femmes qui ont commencé à réclamer l'égalité de pouvoir et de savoir dès le 15e siècle. C'est ce qu'on appelle la querelle des femmes.
Alors, c'est effectivement, les condamnations qu'on voit sur la question de la langue, sur le terrain de la langue, en fait, ne sont qu'un terrain de plus, on pourrait dire, de la querelle qu'on voit, qui est une controverse européenne, en fait, depuis le 14e, 15e siècle, où c'est un espèce de gigantesque débat européen sur qu'est-ce que les femmes doivent faire, qu'est-ce qu'elles ne doivent pas faire, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, qu'est-ce qu'elles ne peuvent pas faire. Et donc, on observe, et ça date effectivement un tout petit peu après, je dirais, la création création des universités, où on a vraiment du savoir qui se crée. Alors c'est parfois du savoir, c'est parfois de la rigolade, c'est du théâtre, c'est beaucoup de choses, mais globalement on voit une pensée se développer sur le fait que les femmes ne pourraient pas occuper les terrains du pouvoir. Mais on ne se dispute pas, on se dispute beaucoup dès le XIIIe siècle sur la question du savoir, sur la question du fait est-ce que les femmes peuvent aller à l'université ou pas, sur la question du fait est-ce que les femmes peuvent gouverner ou pas, sur la famille, est-ce que les femmes peuvent partager l'autorité dans la famille, etc. Mais on ne se dispute pas sur la langue. Et on observe l'ouverture d'un front, d'un nouveau front de lutte, la langue, à partir du début du XVIIe siècle.
Donc avec des grammairiens que vous dites un peu misogynes.
Oui, et qui ne se cachent pas derrière le petit doigt, contrairement à ceux d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils développent l'idée que le masculin est le genre le plus noble, c'est comme ça qu'ils parlent, et que lorsque les deux genres se rencontrent, eh bien le genre le moins noble doit céder l'espace devant le genre le plus noble.
Normal.
Ben oui.
Alors, en tout cas, ce qui est intéressant dans votre livre, Eliane Viennot, c'est que vous dites que la langue française, finalement, n'est pas sexiste en soi, mais c'est les usagers, les grammairiens qui l'ont rendu sexiste.
Oui, c'est ça. Et c'est un des grands, je dirais, c'est un des grands atouts que nous avons dans la Manche aujourd'hui, c'est que nous avons la langue avec nous. La langue, en soi, elle est absolument... Les langues romanes sont équipées pour l'égalité. Elles ont tous les noms qu'on veut. Vous voyez, on y parlait tout à l'heure de professeur, professeuse, de même qu'elles ont boulanger, boulangère. On sait faire des noms. Tout de suite, on sait faire. On a fait youtubeur, on a fait youtubeuse sans doute dans la minute qui suit. Donc la langue, elle sait faire. Nos ancêtres savaient résoudre le type de conflit dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire quand il y a plusieurs noms de genre ou de nombres différents, comment est-ce qu'on va les accorder ? Notre langue possède le mot humain, par exemple. Aujourd'hui, on ne devrait plus parler des droits de l'homme quand on ne parle pas des droits des hommes. Hein. Donc, on n'a rien à inventer, même si, chemin faisant, on invente des petits trucs. Mais globalement, on a tout le matériel dans les langues romanes pour parler à égalité des hommes et des femmes.
Parler de l'égalité femmes-hommes et non pas homme-femme.
Oui.
Parce que là aussi, c'est important, l'ordre des mots.
Oui, alors ça, c'est une... Je dirais que vous disiez tout à l'heure, il y a des femmes qui ont protesté, etc. En fait, dans l'histoire, on voit que depuis que des grammairiens essayent de masculiniser la langue, d'autres grammairiens protestent. Hein. On n'est pas... Mais jusque dans les années, on va dire, 70 du XXe siècle, ces protestations sont un peu sporadiques, elles sont au coup par coup. Tandis que depuis les années 70, on a une réflexion systématique, je dirais. Et de nos jours, effectivement, on apporte des choses. Par exemple, on dit quand on a un doublet, ce qu'on appelle les doublets françaises-français, le fameux française-français du général de Gaulle, ben, ça serait peut-être mieux de dire français-française. Parce qu'on applique l'ordre, non pas la galanterie, comme les conseillers de Gaulle ont dû lui souffler à l'oreille, mais on essaye d'être plus rationnel et par exemple d'utiliser l'ordre alphabétique.
Eliane Viennot, ce travail historique éclaire bien sûr tous les enjeux actuels que nous traversons, que nos sociétés traversent depuis quelques années, notamment avec le mouvement MeToo. On va en parler après avoir écouté Red Car, que l'on a connu sous le nom de Christine and the Queen, puis de Chris, de elle à il.
À côté de moi, mes gestes ont pris la couleur de tes mouvements. J'y pense tout le temps, malgré moi. Oh, ça prend, oh, ça tend, oh, on se rend et sans jamais rien dire. Oh, on se rend et sans jamais rien dire. Oh, on s'entraide, oh, ta dégaine. Oh, on s'aime sans jamais rien dire.
Rien dire, Redcar sur RFI avec un nouvel album annoncé dans quelques jours, Les Adorables Étoiles. Eliane Viennot, il n'est pas question que nous ne disions rien aujourd'hui, car la question du genre dans la langue française est importante. Et donc, avec votre essai « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin », vous remettez un peu les pendules à l'heure. Et cela va aussi bien sur les règles de grammaire que sur l'emploi des noms féminins, notamment pour les noms de métiers, parce que, alors on le sait ou on le découvre, au XVIIe siècle, existait une financière, une officière, une dompteresse, voire, ça c'est quand même ironique, une académicienne, alors qu'il n'y avait pas l'ombre d'une femme sous la coupole. C'est incroyable.
Oui, mais il y avait d'autres académies, donc, et il y avait des académiciennes. Et de toute façon, le mot existe. Même si, après, on regarde les emplois, est-ce que l'emploi est propre, est-ce qu'il est figuré? Mais notre problème n'est pas là. Notre problème est, est-ce que le mot existe? Si le mot existe, on peut l'utiliser.
Et il y a une bataille, vous le racontez dans votre livre, une bataille autour du mot « autrice », qui est une bataille très révélatrice. Pourquoi ce mot-là a, à ce point, enflammé les esprits, les intellectuels de l'époque? Ce mot qui revient aujourd'hui hein, dans la langue, on dit très souvent, personnellement j'utilise très très souvent ce mot-là de « autrice », mais ça peut être contesté.
Oui, moi je dis que la guerre est finie, la guerre d'autrice est finie. Hein. Il y a encore des gens qui traînent un peu les pieds, mais voilà, c'est à peu près terminé. La plupart des médias l'ont repris, les gens le disent, etc. Alors pourquoi est-ce que ce mot-là a fait l'objet d'une guerre particulière? D'abord, il faut se remarquer que... parmi les 5000 noms qui désignent des personnes en français, il n'y en a que quelques poignées qui ont posé problème. Hein. On n'a jamais contesté le mot servante, ou le mot boulangère, ou le mot cuisinière. Ce qui a été contesté dès le XVIIe siècle, ce sont les mots qui désignent des occupations que les hommes qui ont fait ces règles, hein, enfin, ou ces préconisations, estimaient être propres aux hommes. Donc, les premières condamnations, par exemple, qu'on lit dans des livres du XVIIe siècle, c'est « il ne faut pas dire autrice, peintresse, philosophesse, médecine, poétesse. Il faut dire le nom masculin ». Donc, vous voyez très bien le champ que recouvrent ces termes, c'est le savoir, c'est la pensée, c'est le jugement, c'est la création. Donc, c'est ces termes-là qui ont été les premiers condamnés. Et autrice, bien entendu, parce que les hommes qui font ces condamnations, ce sont des auteurs, ce sont des intellectuels, c'est les mots du domaine de la création intellectuelle qui ont le plus souffert, je dirais, de l'activisme de ces messieurs.
Il y aurait donc un déni de la possibilité de créer pour les femmes?
Oui, c'est-à-dire que très vite, on comprend que le fait de condamner le nom ne va peut-être pas condamner la chose, la personne, mais va leur rendre la vie très, très compliquée. Et d'ailleurs, ça se repère dans l'histoire, puisque après cette première vague de condamnation du XVIIe siècle, les noms dont je vous ai parlé, on a une deuxième vague à la fin du XIXe siècle quand les femmes arrivent enfin à l'université et peuvent devenir des vraies doctoresses, des vraies chirurgiennes, des vraies, etc., des vraies pharmaciennes. Là, on leur dit non, non, pas question, il va falloir utiliser les vraies avocates, il va falloir utiliser les noms masculins. Et on a une dernière vague de masculinisation du lexique quand les femmes arrivent à la citoyenneté au milieu du XXe siècle. Là, on dit non, non, on ne peut pas dire sénatrice. Parce que le mot que tous les Français connaissent depuis des siècles, on ne peut pas dire sénatrice, pour ces femmes-là, il faudra dire sénateur.
Mais le mot citoyenne a posé question et problème aussi. Et vous citez Diderot, le philosophe, qui apparaît quand même particulièrement misogyne dans la phrase que vous citez, en tout cas, je n'ai pas lu les œuvres complètes, où il estime que les femmes ne sont pas vraiment citoyennes. Donc on ne peut pas les appeler citoyennes.
Oui, alors il y a eu évidemment ce mot-là aussi a posé énormément de problèmes, non pas sur le terrain littéraire comme le mot autrice, mais sur le terrain politique, puisque vous savez, tout le monde a vu des films sur la Révolution, dès le début de la Révolution, comme on ne veut plus des titres, on ne veut plus dire madame, on ne veut plus dire monsieur le comte, monsieur, etc., ou madame la duchesse, on dit citoyen, citoyenne. Donc pendant toute la Révolution, on a appelé les hommes citoyens, citoyen Charlot, citoyen Mercier, citoyenne Berthier, etc., Viennot. Ou citoyenne Viennot. Et ensuite, c'est l'époque aussi, la Révolution, où on définit, finalement, on définit ce que c'est que la citoyenneté. Et au bout des 4 ans, hein, deuxième constitution, disons, on sait ce que c'est que la citoyenneté, on a défini la citoyenneté, c'est le fait de pouvoir voter et le fait de pouvoir porter des armes. Et donc là, les femmes ne peuvent pas être citoyennes. Donc il y a toute la France avait passé 4 ans à nommer les femmes citoyennes, et du jour au lendemain on dit ah non, il faut faire un rétropédalage, c'est pas possible. Cela dit, le mot était vraiment passé dans les usages populaires, et on voit que dans tout le 19e siècle, chaque fois qu'il y a des échauffourées, des révolutions, etc., on recommence à appeler les femmes citoyennes.
Donc l'usage l'a emporté quand même. Absolument. Sur la réaction.
Mais alors, ça veut pas dire qu'elles ont les droits du citoyen.
Il faudra attendre un peu plus longtemps.
Et un petit peu plus longtemps.
Alors, votre livre a été édité pour sa première édition en 2014. Il a donc presque 10 ans. Il a été un peu augmenté, mais à peine. Mais en tout cas, sa lecture aujourd'hui est passionnante parce que la poussée des mouvements féministes, la poussée des revendications transgenres peuvent se comprendre et s'expliquer avec ce livre-là et avec ce recul historique que vous proposez, Eliane Viennot. En revanche, vous ne parlez pas, parce que justement c'est une réédition, du pronom « yel », pronom qui n'est pas tout à fait du goût du linguiste Bernard Cerchiglini.
Ce n'est pas une forme de plus dans la langue, dans la mesure où les pronoms n'existent pas seuls, on fait des phrases avec eux. « Yel » est belle ou beau, il faut choisir. Et les gens qui se sentent neutres et qui utilisent « yel » veulent un neutre et ils ne voudront ni belle ni beau. Il faudra donc inventer une forme neutre à l'adjectif. Et de proche en proche, on va neutraliser la langue. C'est-à-dire qu'en fait, avec « yel », on met en place un système de neutre dans la syntaxe du français qui est aux antipodes de ce que la langue produit depuis 2000 ans. Ce n'est pas neutre du tout, du tout, du tout.
Eliane Viennot, réaction à Bernard Cerchiglini.
Alors, je pense que les gens qui sont pour l'usage du mot « yel », il y en a une partie qui effectivement a l'objectif dont parle Bernard Cerchiglini, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des gens qui cherchent, qui font de la recherche expérimentale pour essayer de voir si le français pourrait se passer du genre. Ça concerne extrêmement peu de gens, c'est vraiment de la recherche expérimentale. Il est vrai, comme le dit Bernard, que si on veut vraiment dégenrer la langue, il faut inventer des milliers de mots. Ce qui veut dire que ce n'est pas demain la veille, parce que nous, la langue fonctionne très bien comme ça pour nous, donc on ne va pas le faire. Mais en revanche, il y a un autre usage de « yel », notamment « yel » au pluriel, qui viendrait, quand on l'utilise, prendre la place du « il » que nous utilisons, que nous avons appris à l'école quand nous parlons de femmes et d'hommes. Pourquoi, quand nous parlons de femmes et d'hommes, faudrait-il résumer au pronom « il » ? Si vous mettez « yel », ça marche déjà mieux. Alors, ensuite, le fait que ce pronom ne soit pas genré, vraiment, ça casse pas, je dirais, 3 pattes à un canard, parce que tous les autres pronoms personnels ne sont pas genrés. Quand vous dites « je », quand vous dites « tu », quand vous dites « vous », « nous », « on est bien obligé de savoir si, dès qu'il y a un adjectif qui va arriver, on va le mettre au pluriel, on va le mettre au singulier ou au pluriel ou aux deux. Donc, je trouve que la polémique a été vraiment, comme beaucoup de choses dans cette histoire de langage égalitaire, elle ne vaut pas le coup, cette polémique. Elle n'a pas de raison d'être. Qu'il y ait un pronom de troisième personne qui ne soit pas plus genré que les autres, eh ben ça le met au même niveau de difficulté, si on peut parler de difficulté, que les autres.
Oui, mais vous savez bien quand même, Eliane Viennot, qu'il y a des mouvements assez conservateurs, que vous nommez misogynes, et très puristes, parmi ceux qui s'occupent de la langue française. Est-ce que vous diriez, comme Sandrine Rousseau, qu'il faut lâcher votre virilité, messieurs les grammairiens ou linguistes ?
Moi, je dirais plutôt qu'il faut reprendre ses esprits. Et recommencer à être des gens rationnels. Parce que dès qu'on est dès qu'on commence à raisonner tranquillement, eh ben on voit qu'il n'y a pas, vraiment. C'est extrêmement facile, à partir du moment où on le veut, c'est une question de volonté, de parler un français non sexiste. N'importe qui peut dire bonjour à tous et à toutes. Plutôt que bonjour à tous. Vous voyez, on n'a pas besoin d'inventer le mot tout. Tout le monde le connaît depuis très longtemps. Donc, c'est une question de volonté. Quand on parle quand on parle des droits, il faut parler des droits humains. Si on veut bien parler des droits des femmes, des enfants, des intersexes et de tout le monde. C'est une question de bonne volonté. Et je pense que si on laisse tomber l'idéologie, si on laisse tomber la politique, si on se met autour d'une table et qu'on réfléchit, on trouve tout le temps des solutions pour ne pas continuer à parler ou à écrire de manière sexiste.
Alors, je citais à l'instant Sandrine Rousseau, la députée et la militante écoféministe. Elle est, elle aussi, engagée dans une logique de déconstruction du barbecue à la langue française.
La figure politique en France, c'est le tribun. C'est-à-dire, c'est le tribun, c'est celui qui fait des grands discours, qui écarte comme ça fort les bras et qui a une voix qui porte haut et fort. Le féminin de tribun, c'est tribune. C'est-à-dire c'est la table sur laquelle il s'appuie. C'est-à-dire qu'on n'a même pas de mot pour désigner une femme politique qui soit en position de leadership. Il n'y a pas de mot. Parce que même leader politique, c'est un nom masculin. Il n'y a pas de mot de femme désignant une position de leadership politique. Donc ça veut dire, et quand il n'y a pas de mot, ça veut dire que ça n'existe pas, ça veut dire que ça ne désigne pas, ça veut dire que ça ne met pas en visibilité. Donc je veux dire, on a tout à faire encore en politique.
Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire encore, Eliane Viennot, ou est-ce que beaucoup de choses ont été faites ces dernières années ?
Alors, je crois que beaucoup de choses ont été faites dans la mesure où on sait maintenant que la position des conservateurs, on va dire, et des conservatrices, qui pensaient détenir la tradition et qui s'autorisaient à critiquer les féministes comme des femmes qui voulaient détruire la langue française, on sait que cette position, elle est à l'eau. On sait que tous les noms féminins dont on a besoin ont existé. On sait comment faire pour les accords, on sait comment faire pour les droits humains, etc. Simplement maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que les bonnes pratiques soient enseignées. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y sont mis un petit peu à la diable, on va dire. Et c'est sûr que si, quand on produit des textes où il y a 40 points médians dedans, ça ne marche pas. Hein, c'est pas ça qu'il faut. Donc, il faut faire ce que font beaucoup d'entreprises aujourd'hui, ce que font des universités, ce que font des municipalités, c'est-à-dire former leur personnel. Et puis, il faut que l'école s'y mette.
Il faut que l'école s'y mette et peut-être que le français populaire s'y mette un peu. Tout cela pour vous dire que Lucie Bouteloup est avec nous et elle est avec sa chronique de la puce.
La puce à l'oreille.
22 v'là Lucie, bonjour.
Bonjour Pascal, 22 v'là Lucie et pourquoi pas 22 v'là les flics pendant qu'on y est.
Les fliquettes.
Les fliquettes, absolument. Alors, les chiffres dans les expressions, on connaît, il y a se mettre sur son 31, il y a se raser la boule à zéro ou encore se couper les cheveux en quatre. Mais ce 22, il vient d'où ? Eh bien, Georges Planel, l'inventeur du site Expressio, va nous livrer les différentes pistes d'explication. Mais avant, 22 v'là les gosses.
Être un nom de code et peut-être deux collègues qui se parlent et puis d'un coup il y en a un qui voit la police et puis oh merde, 22 il y a les flics.
Je connais l'expression se mettre sur son 31, du coup peut-être que 22 en fait c'est l'inverse, c'est genre ouais c'est pas une bonne nouvelle quoi, enfin genre c'est pas bien, du coup bah c'est peut-être zut genre.
C'est en outre terme le aha. Aha c'est le cri des choufs dans les cités françaises.
Il y avait 22 jeunes sur ce coup là, c'était un des plus gros coups du siècle, c'est je crois une cargaison de drogue, un truc comme ça. Du coup la police qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont dit, ils sont 22, on va y aller à 22h. Sauf que dès que les jeunes ont vu le flic, ils ont dit, punaise, il est 22h, faut qu'on parte.
22, c'est la loose, quoi.
La ma puce à l'oreille, ta 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 ta.
Alors Georges Planel, 22, qu'est-ce que ça veut dire que cette expression 22? On imagine le message codé tout de suite.
Oui, bah 22, ça veut dire faites attention, on risque d'avoir des soucis.
Ok, alors pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous décoder ce message?
Alors, Claude Duneton, que vous connaissez forcément, a avancé une...
L'auteur de la puce à l'oreille.
L'auteur de la puce à l'oreille, comme par hasard, a avancé effectivement une explication qui vient des typographes. Alors il faut rappeler quand même que les typographes, au milieu du 19e siècle, à l'époque où l'expression est apparue, les typographes, c'était des gens qui travaillaient dans une imprimerie, chez un éditeur ou dans un journal, et qui, à l'aide de caractères en plomb, construisaient les planches qui allaient permettre d'imprimer les pages des livres ou des journaux. Et ils travaillaient dans des ateliers dans lesquels il fallait impérativement qu'il y ait du silence pour qu'ils ne commettent pas d'erreurs lorsqu'ils composaient les planches de caractères en plomb qui allaient permettre l'impression. Donc il fallait du silence.
Et ces fameuses lettres avaient des tailles différentes.
Alors... Voilà. Les tailles aux alentours de 10 étaient les tailles les plus fréquemment utilisées. Il y avait donc un contremaître qui surveillait tous les typographes qui travaillaient dans l'atelier, et lorsque le contremaître s'absentait, c'était la bonne occasion pour les typographes de commencer à discuter un petit peu. Simplement, lorsque le contremaître arrivait, il fallait faire silence. Et dans ce cas-là, les typographes, pour signaler l'arrivée du contremaître, disaient 22, qui correspondait à une grande taille, ce qui voulait dire, attention, voilà le contremaître, il faut s'arrêter de papoter.
Donc 22 pour le contremaître, mais c'est pas tout, parce qu'apparemment, on pouvait utiliser d'autres numéros en fonction de l'importance des personnes dont il était question.
Oui.
Comme par exemple...
44 pour le grand patron. Vous comprenez ?
Le double de 22.
Le double, exactement.
Donc, c'était une façon de parler du contremaître et de toutes ces personnes sans éveiller trop l'attention.
Exactement.
Mais cette explication ne figure pas dans l'argot des typographes et elle est contestée. Donc, il y a d'autres pistes.
Alors, effectivement, il y a quelques autres explications qui ont un petit peu fleuri. La plus communément citée, c'est que si vous faites la somme du rang des caractères dans l'alphabet, de chef, C-H-E-F, le C étant la troisième lettre et ainsi de suite, d'accord ? Si vous faites le total, vous arrivez à 22.
Mm-hmm.
Sauf qu'apparemment, à cette époque-là, on ne parlait pas de chef. Le contremaître, par exemple, s'appelait un prot et non pas un contremaître ou un chef. Une autre possibilité, c'était, paraît-il, la veste des policiers de l'époque qui comportait 22 boutons. Ou les vestes comportaient 11 boutons, mais comme les policiers étaient souvent deux par deux, ça faisait 22 boutons. Donc ça pouvait dire, attention, 22, voilà les flics.
Il y a une chose qui s'oppose à ça. Flics.
Quand même, une petite chose qui s'oppose à ça, c'est que le 22 tout court est apparu au milieu du 19e siècle et le 22, voilà les flics, est apparu à la fin du 19e siècle.
Pour autant, cette expression 22, voilà les flics, elle est vraiment restée.
Oui, elle est restée, effectivement. Ben, le 22 n'avait pas de raison de rester, les typographes ont disparu. Enfin, si vraiment ça venait des typographes, mais effectivement, le 22, voilà les flics, est resté. Oui.
Donc elle est restée comme un signal entre, par exemple, des brigands
en général,
pour se prévenir
en général,
entre eux.
Détruant.
Attention,
oui.
Les flics arrivent. Et puis, dernière possibilité.
Bah, la plus simple et peut-être la plus réelle, j'allais dire, c'est tout simplement la déformation du juron Vindieu, qui, si au fur et à mesure dans le temps, se serait transformé en 22. Vindieu, les flics arrivent. Vindieu, on va revoir des soucis. Il est tout à fait possible que ça soit là qui est réellement l'origine.
J'ai pas trouvé de synonyme à 22.
Non, je connais pas non plus.
Merci Georges Planel d'être venu dans
Merci
la puce pour éclairer notre lanterne. Je rappelle que votre ouvrage « Les mille et une expressions préférées des Français » vient d'être réédité aux éditions de L'Opportun. À très vite autour d'une nouvelle expression.
Merci, à bientôt.
Merci à tous les deux, Eliane Viennois. Un dernier mot à propos de votre livre « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin ». Vous proposez de changer la devise nationale « Liberté, égalité, fraternité ». Pourquoi ?
Parce que le mot « fraternité » n'a rien à faire là. Un mot qui représente la famille ne devrait pas être dans une devise nationale. Et on devrait plutôt avoir un mot comme « solidarité ».
C'est-à-dire « liberté, égalité, solidarité ».
Oui.
Pas mal.
Ben voilà.
C'est
possible.
C'est possible. On va proposer. Merci beaucoup Eliane Viennot. Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin, publié aux éditions X avec une préface de Diane Lamoureux. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, en échange permanent avec David Finzel, Guillaume Ploquin à la réalisation, émission à réécouter sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux.